Généralement, c'est un rite de passage, parce qu'on paraît devant ses pères.
L'efficacité proprement magique du rituel, la leçon inaugurale.
Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle.
Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Bah, il était vert de peur.
Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous.
Vous voici, comme chaque jour de cet été, conviés dans le grand amphithéâtre du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour une nouvelle leçon inaugurale. Cet état des lieux d'une recherche en cours est aussi le reflet des mutations de notre monde. Aujourd'hui, nous explorons celles qui touchent le langage dans le cadre de la chaire consacrée à l'étude de la création littéraire en langue anglaise. Fluttering and dancing in the breeze, tremblant et dansant dans la brise, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Le poète désormais franco-britannique Michael Edwards nous fait entrer pour sa leçon inaugurale dans une illumination poétique, celle de l'anglais Wordsworth au début du 19e siècle, dont le souvenir de la vue d'une multitude de jonquilles, les daffodils, se transforme en une vision grâce à l'art du poète sur le langage. On voit ici, souligne Michael Edwards, qu'un réel tout ordinaire et qui aurait pu devenir sentimental est aussitôt travaillé par la poésie. La poésie anglaise explore en même temps et le domaine des sens et celui de l'imagination. Reposant sur des perceptions précises, pour Michael Edwards, le poème anglais le plus illuminé est souvent une fête de l'exactitude. Le poète, traducteur et grand spécialiste des rapports entre les littératures anglaises et françaises, passé par Cambridge et une thèse sur Racine au début des années 1960, choisit avec malice un poème réputé facile que l'on fait apprendre aux enfants, mais dans lequel rien n'est simple à y penser. Académicien depuis 2013, Michael Edwards a enseigné au Collège de France de 2003 à 2008. Le philologue Michel Zinc, qui a soutenu sa candidature, revient sur ses années et son approche intime de la création. Il nous a donné une ouverture sur le monde anglo-saxon, tout en parlant de la littérature, non en érudit ou en théoricien, mais en poète. Il y a en lui une sensibilité réfléchie. Sa leçon inaugurale s'avère une subtile exploration de notre rapport au réel, entre grâce et mélancolie, et à la recherche d'un autre monde. Il met en garde contre les illusions littéraires ou celles d'un Éden, et il cite le poète Yves Bonnefoy, dont il fut proche, pour sa leçon inaugurale en 1981. Que de dualisme nocif entre un ici dévalorisé et un ailleurs réputé, le bien. Michael Edwards voit dans la littérature une sagesse enracinée phrase par phrase dans le vécu. L'émerveillement, nous dit-il, n'est pas seulement une émotion, c'est une façon d'entrer dans la vie des gens et des choses. Et nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France pour la leçon inaugurale de Michael Edwards le 11 décembre 2003.
Que je vous dise aussitôt mon plaisir à me retrouver parmi vous et ma profonde gratitude devant ce nouveau signe de confiance. En vous remerciant tous, je pense à deux personnes en particulier, à Michel Zinc d'abord, qui vous a soumis la chaire que j'ai proposée. Je suis fier d'avoir été appuyé par un grand savant qui a renouvelé la lecture des littératures françaises du Moyen-Âge et qui sait ce qu'est la création littéraire pour avoir redécouvert, en le pratiquant à merveille, l'art du conteur. À Yves Bonnefoy, qui m'a parlé le premier de la possibilité d'une chaire au collège et qui a patronné ma candidature. Devant l'étendue de ce que je lui dois, je crains que les mots ne me manquent. Je dirais simplement qu'une des grandes joies de ma vie est le dialogue dans lequel je me trouve avec sa méditation inépuisable et incessante, avec sa présence presque paternelle. Le Collège de France m'attire depuis longtemps comme une institution dont le projet créatif et munificent fut et demeure unique au monde, comme le haut lieu de la pensée et de la parole partagée. Il y a 3 ans, lorsque j'étais titulaire de la chaire européenne, j'ai découvert aussi quel rapport chaleureux peut exister entre le professeur et le public. Et si vous êtes assis, mes chers collègues, sur 3 rangs, comme au XVIIe siècle, les auteurs dramatiques qui s'alignaient sur ce qu'on appelait le banc formidable de l'hôtel de Bourgogne pour juger la première d'une nouvelle pièce, je n'ai pas à m'inquiéter, car j'ai découvert au sein de cette maison une cordialité collégiale qui me rappelle Oxford et Cambridge. Il m'est particulièrement agréable de savoir que le président de la République m'a nommé à cette chaire et que c'est ainsi la France, mon autre pays, qui m'accueille. Vous m'avez invité à occuper la première chaire créée par le Collège dans le domaine de la littérature anglaise. Pour justifier le choix de cette nouvelle voie à tracer, il suffirait sans doute d'évoquer l'importance actuelle de la langue anglaise, qui donne accès à de nombreuses littératures dans le monde entier, dont 2, la littérature anglaise proprement dite et la littérature américaine, sont d'une richesse exceptionnelle, incontestée. Je préfère remarquer, cependant, que dans la perspective du Collège de France, la littérature de langue anglaise est une littérature étrangère et qu'au moment même de sa fondation, le Collège s'intéressait à l'étranger avec une intention claire et originale. Vous le savez, 5 des 6 premiers lecteurs royaux furent chargés de l'enseignement du grec et de l'hébreu. C'était, avec le latin déjà enseigné à la Sorbonne, les langues essentielles pour les humanistes de l'époque, comme l'anglais pour les intellectuels de maintenant. Mais si le grec et l'hébreu permettaient de remonter aux sources, de lire hors traduction les œuvres grecques de toutes sortes et les 2 testaments de la Bible, ils posaient de la manière la plus aiguë la question de l'étranger. La Vulgate, écrivant la Bible dans la langue universelle des lettrés, avait masqué pour eux son éloignement et son étrangeté. La révolution culturelle du grec et de l'hébreu nous aide à apercevoir 2 choses étonnantes. Grâce à la Vulgate, une grande partie de la civilisation européenne s'est construite, non pas à strictement parler, sur un livre, la Bible, mais sur une traduction. Et la Bible, dans sa version originale, qu'elle soit considérée comme la parole de Dieu ou comme un recueil de textes mythiques, mais néanmoins fondateurs, se retirant dans son altérité mystérieuse, est très rarement lue. Si la théologie se doit de chercher à comprendre, de son point de vue, la nécessité de traduire le livre autrement incompréhensible du salut offert à tous, la pensée littéraire peut étudier dans une autre optique le pourquoi de l'existence même de l'étranger, le grand possible créé par la multiplicité des langues et la nature même de la traduction, qui se tient, comme je l'ai dit dans mon autre leçon inaugurale, au cœur de la littérature anglaise. Il est stimulant de remarquer aussi, à cette époque où tant de choses furent fondées, que c'est en leur expliquant des poésies étrangères que Jean Dora inspira Ronsard et Du Bellay. Il me semble donc que cette chaire, bien que neuve, est tout à fait dans l'esprit de ce qui était le futur Collège de France en 1530. Elle demande à celui qui l'occupe de toujours se référer dans son enseignement à l'anglais original des œuvres qu'il commente en le traduisant. Elle lui demande surtout non seulement d'innover par sa réflexion sur la littérature de langue anglaise, mais d'en sonder la différence par rapport à la littérature française, d'explorer ce qui la rend précisément étrangère, comme ce qui rend étrangère une certaine manière anglaise de penser la philosophie, par exemple, de vivre la démocratie, de se mettre en rapport avec, disons, la nature, d'habiter le quotidien. Au bord de la Tamise, près de Londres, et à quelques kilomètres, à quelques miles, en amont de la ville où j'ai été élevé, se dresse le palais de Hampton Court. C'est là que, lors d'une réunion décidée par Jacques Ier, l'idée fut lancée d'une nouvelle traduction de la Bible, qui vit le jour quelques années plus tard. Ce fut la célèbre version autorisée de 1611, dont l'influence sur la littérature anglaise explique, pour une part, sa différence. Le palais se compose de deux parties distinctes, des cours pré-élisabéthaines, ou Tudor, qui date du début du XVIe siècle, et une cour classico-baroque due à Sir Christopher Wren de la fin du XVIIe. La cour classique, influencée comme toute notre culture à l'époque par la France, s'anime par des lignes et des volumes. Elle met en évidence l'aspiration humaine à un ordre. Dans les cours pré-élisabéthaines, qui paraissent, malgré leur dimension, plus familières, les briques omniprésentes semblent plus près de la terre dont elles ont été façonnées. Je ne prétends pas que le bâtiment de Rennes et le jardin français d'une part, le bâtiment Henri VIII et les jardins anglais de l'autre, représente rigoureusement les ambitions différentes de la littérature, de l'art, de la pensée de nos deux pays. Ils offrent néanmoins un début d'analyse et je suis ému d'avoir pu réfléchir jeune et dans un lieu anglais où la présence de la France était sensible sur la signification existentielle et ontologique de ces deux tendances que je n'ai cessé de méditer et que cette chaire aura en partie pour tâche de préciser. Comme vous le savez, le projet directeur de la chaire est l'étude de la création littéraire. Cette approche est celle qui me vient spontanément, comme elle peut venir à qui, écrivant poème ou prose, est amené à s'interroger sur les sources de ses écrits, sur les rapports les plus secrets entre sa vie et son œuvre, sur la modalité souvent énigmatique de son acte d'écrire, sur ce qui lui arrive et sur ce qui arrive au monde dès qu'il entre dans le domaine légèrement autre d'une parole en formation. Mais je crois que cette approche a aussi une importance objective. Il règne à l'heure actuelle une certaine inquiétude quant à la fonction de la recherche et de la critique littéraire. L'étude de l'acte créateur et de l'œuvre en tant que création offre, à côté de l'histoire littéraire et à l'encontre d'un certain type de théorie qui chercha un moment à la remplacer, un moyen d'agir pour le moins positif, utile et pleinement littéraire. Je ne prétends pas pénétrer l'esprit de l'écrivain au moment de la composition de l'œuvre. Il s'agit plutôt de mimer l'acte poétique ou l'acte prosaïque tel qu'il se manifeste dans l'œuvre achevée. L'auteur ne meurt pas en vue de la naissance du lecteur et du texte, comme on le disait naguère. Auteur et lecteur collaborent l'un avec l'autre dès que le lecteur accomplit, en lisant, son propre acte poétique. Si la littérature est non pas une imitation, mais une bien plus obscure mimésis, que chaque génération d'écrivains semble conduite à interpréter à nouveau, la lecture l'est aussi. Elle peut l'être du fait que les écrivains explorent presque toujours la création littéraire dans les œuvres qu'ils réalisent. Ce n'est pas par introversion, et cela n'implique pas sans cesse des poèmes sur la poésie, des romans sur le roman, et des pièces de théâtre sur le théâtre. Quel que soit le sujet de l'œuvre, et sans même que la littérature soit mentionnée, je trouve constamment ou bien des moments où l'écrivain médite par une figure sur l'un ou l'autre aspect de sa pratique, ou bien toute une dimension de l'œuvre qui concerne, en filigrane, l'acte d'écrire ou la nature de l'écrit. Tant d'œuvres se révèlent être, à bien les entendre, des arts poétiques et vont au fond de la question avec plus de finesse et plus de clairvoyance que les arts poétiques qui s'annoncent tels. Et cette conscience de soi de l'œuvre n'a rien pour ennuyer le lecteur, dans la mesure où poésie, récit, théâtre sont des façons de parler de la vie qui se déroulerait par exemple dans le grand théâtre du monde, et où tenter de comprendre ces différentes activités littéraires et la finalité de chacune, c'est tenter également, à condition de prendre sa recherche entièrement au sérieux, de comprendre la vie. Je sens que je peux expliquer au mieux mon propos en examinant une œuvre en particulier. J'ai toujours été convaincu du reste de la nécessité à la fois d'une macro-critique qui s'intéresse au système et aux phénomènes littéraires à un niveau global et d'une micro-critique qui étudie les œuvres et même des passages, des moments spécialement significatifs. J'ai toujours senti l'avantage de mener ensemble ces deux formes d'enquête en tirant continuellement de l'analyse des œuvres les leçons les plus universelles possibles et en renouvelant les idées générales en les exposant à des cas particuliers. D'une part, une recherche fondamentale où l'on accepte de poser les grandes questions incontournables, si même elles font peur. Qu'est-ce que la littérature ? Qu'est-ce que la langue ? Quel rapport entretiennent-elles avec l'être ? Avec le vivre, avec l'ensemble de notre expérience. D'autre part, des leçons de choses, pour ainsi dire, où en nous familiarisant avec la création littéraire telle que des écrivains nombreux et différents l'ont vécu, nous apprenons à mieux poser les questions et à tenir aussi les réponses pour provisoires. Comme c'est toujours un poème, un récit, une pièce de théâtre, que nous lisons ou écoutons, et qu'aucune idée ne vaut si elle est incapable de nous accompagner dans ces rencontres singulières, ainsi, sans une philosophie, un sens général de la vie comme point de départ et une sagesse à viser, nous n'aurons, pour prix de nos efforts, qu'une série d'études. Je pense à un poème de Wordsworth, bref et très anglais, paru dans les poèmes en deux volumes de 1807, qui commence « I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. » Wordsworth raconte la vue soudaine, lors d'une promenade, d'une multitude de jonquilles et sa joie à les observer et à s'en souvenir plus tard. Cela semble peu de choses, mais à écouter le premier vers, « J'errais seul comme un nuage », on comprend que le poème parle implicitement de la création littéraire, de l'entrée en poésie. Dans cette errance du corps et de l'esprit, dans cette solitude agréable, puis dans la sensation de vagabonder comme un nuage that floats on high, qui flotte là-haut, disponible, et en attente, et dans l'imprévisible de ce qui surgit afin de provoquer le poème, de ces fleurs fabuleusement abondantes, d'où la brise qui devient visible par la suite dans la danse des jonquilles, comme le souffle et l'inspiration du poète deviennent audibles dans son poème, et d'où le sentiment chez Wordsworth que devant cette allégresse des choses, non pas l'homme, mais le poète ne peut éviter de se réjouir. Le poème est la mise en scène du commencement de l'acte poétique, pour le poète comme pour le lecteur. On passe aussitôt un seuil, on s'imprègne de l'étrange, à l'aide du mot « as », comme, qui ouvre dès le premier vers sur un monde pris en charge par l'imagination, où un homme ressemble par son esprit léger et mobile à un nuage, et à l'aide du mouvement vertigineux dans les mots « I saw », je vis, entre le regard horizontal de quelqu'un qui aperçoit des jonquilles devant lui et le regard plongeant de qui se croit en haut dans le ciel. Les choses les plus simples commencent à changer tout en restant elles-mêmes. La brise qui fait danser les fleurs devient un grand souffle poétique et peut-être lumineux qui enivre le monde naturel. Le nuage devient le signe d'une existence moderne qui se délecte des moments qui passent, comme plus tard les merveilleux nuages de Baudelaire, et du poète à l'orée du poème, qui observe les vales and hills, les vallons et les collines du réel, sous un angle inaccoutumé et surprenant. Et n'est-ce pas toujours ainsi en littérature ?
Vous écoutez France Culture, la leçon inaugurale de Michael Edwards sur la création littéraire en langue anglaise en 2003 au Collège de France.
Le fait même d'entamer une phrase en écoutant ses rythmes et les sons qu'elle module, comme de poser un trait ou une couleur, de faire résonner quelques notes, suscite immédiatement une altérité, une nouveauté où tout semble possible. Le moi, ou plutôt le je de l'écrivain, comme du lecteur, devient lui aussi étrange et d'une singulière virtualité. Dans la simple expression « I gazed and gazed », « je regardais et regardais », avec des tirets qui représente presque hors langage les longs moments où le corps de Wordsworth est immobilisé et son être en suspens, on sent le progrès dans sa conscience et au-delà de cette allégresse inexplicable d'un monde extra-humain qui devient du coup pleinement notre demeure et les changements que subit une âme concentrée dans un regard illimité. Wordsworth, poète romantique par excellence, parle le plus souvent à son propre nom et peut donner l'impression à un lecteur pressé que le jeu de ses poèmes est la voix, sans plus, de l'homme quotidien, frère de Dorothée et ami de Coleridge. On voit cependant, dans l'état d'errance et de flottement où le poème commence à prendre forme, comme dans les jeux successifs qui disent le poème, et auxquels je reviendrai, que même pour Wordsworth, l'écrivain, et peut-être surtout le poète, ne sait, dans l'informe qui précède le poème, et dans l'ébranlement des mots, ni où il va, ni très précisément qui il est. De la leçon de Paul Valéry, inaugurant en 1937 la première chaire de poétique au Collège de France, je retiens cette description du savant ou de l'artiste, je cite, « en tête à tête avec ce qu'il est de plus soi et de plus impersonnel. C'est la meilleure expression que je connaisse de ce fait curieux et qui pousse à réfléchir que dans l'attention extrême que nous portons à autre chose, nous accédons à la fois à une impersonnalité qui nous dépasse et à un soi plus authentique que toute cette cohue de moi que nous habitons d'ordinaire, comme si la vraie personnalité était impersonnelle et même quelqu'un d'autre. J'ajouterai simplement que je crois avoir compris par l'acte poétique effectué comme poète et comme lecteur que le soi n'est pas déterminé et que c'est précisément dans la création littéraire que l'on prend conscience du possible du je dans ses rapports avec la mémoire et avec un réel qui, sous la pression des mots, commence lui aussi à changer. Dès les premiers mots du poème, on se trouve dans un domaine qui a la propriété à la fois grisante et inquiétante, non pas d'être ou de ne pas être, mais de n'être pas encore, où le monde et le moi s'ouvrent à de surprenants possibles. La poésie surtout n'est pas la mise en vers d'un savoir acquis, mais, comme l'enseignement au Collège de France, un savoir en train de se faire. Dans le poème de Wordsworth, le fait de regarder et de regarder encore a pour effet de modifier le temps, en changeant le temps qui passe en un temps qui ne passe pas, en un temps autre que les répétitions du poème, les vers, les strophes et les rimes, ont également pour fonction de promouvoir. Et il n'aboutit pas à une description de plus en plus détaillée des aspects de la scène. Il permet au contraire de descendre plus loin que la conscience et la volonté afin de transformer la vue en vision. Rien n'est simple, à bien y penser, dans ce poème réputé facile et que l'on fait apprendre aux enfants. En lisant le premier vers, on s'imprègne de l'étrange, comme je l'ai dit. On entre aussi dans la fiction, qui est le réel vu autrement. Le ciel des nuages et la terre des hommes semblent se confondre. Une deuxième comparaison qui rapproche les myriades de jonquilles aux astres rend présent à la fois le jour et la nuit. Une expression aussi commune que la never ending line, la ligne sans fin des fleurs, parle dans le contexte des espaces interstellaires de l'infini. Le monde autour de Wordsworth et le monde dans sa mémoire, le ciel nocturne absent, s'unissent peu à peu dans une fiction aussi persuasive que le réel, élargie ainsi immensément. Et la poésie n'est-elle pas toujours une fiction? Une fiction vive, selon Fénelon, que je cite malgré l'apparente vétusté de ses idées, parce qu'il est bon de chercher de l'aide partout, sans rester dans les limites d'une idéologie sympathique, et parce que l'expression dit bien que dans la fiction de la poésie, du roman, du théâtre, il se rencontre une certaine vie, différente de celle que nous connaissons dans les échanges journaliers. Et cette fiction, cette feinte, selon l'étymologie, qui émet l'hypothèse non pas d'une autre réalité, mais d'une saisie plus perspicace de la réalité, cette formation qui laisse supposer que le réel n'est pas immuable, mais en devenir, n'entre-t-elle pas dans toutes les opérations de l'esprit d'une race qui, par sa conscience, se voit séparée de la grande circonstance qu'elle habite? Le lieu du poème sur les jonquilles, c'est la rive du lac Ullswater, dans la région des lacs. Mais ce que nous appelons maintenant la région des lacs est elle-même une fiction. La région fut inventée au XVIIIe siècle. On la tenait auparavant pour un lieu sauvage où il serait déraisonnable de vouloir se rendre. À peu près au même moment que l'on inventa les Alpes et juste avant l'invention des plages. Dans l'est de l'Angleterre, le pays de Constable est une fiction. Au centre, la forêt d'Ardennes. Au cœur caché de la Grande-Bretagne, Camelot. Je dirais volontiers que l'Angleterre est une fiction, que le réel est une fiction, ce qui ne signifie nullement qu'il n'existe pas. Reconnaître la fictivité de tout, ce n'est pas renoncer à l'obligation de vivre au diapason d'une réalité plus grande que nous, en quoi consiste la santé, le salut de l'être. C'est tenir compte, d'une part, de la perte de la cohérence hallucinée et par trop facile du sujet qui pense et du monde qui pense, et saisir d'autre part que la fiction, et avec elle toutes les formes de l'art, qui sont comme une mise en évidence et une pratique soutenue de la fiction, est un don heuristique, un moyen privilégié de rechercher et de découvrir. Lorsque nous imaginons un âge d'or, avec Hésiode par exemple, ou un Éden, avec le rédacteur des premiers chapitres de la Genèse, nous supposons un monde et des êtres qui sont, simplement, dans un ensemble ininterrompu de faits qui suffit à lui-même sous la bienveillance des dieux. La fonction du langage en Éden et de l'intelligence qui l'anime, c'est de nommer. Dans la version biblique de la disparition de ce premier monde, la chute est provoquée par la propension du serpent à mentir, une faille dans la perfection primitive, commençant dans un détournement du langage. Dans un monde qui n'est pas édénique, qu'il soit déchu ou qu'on le suppose plein de misère dès le début, le rôle du langage, comme de l'imagination que le malheur nécessite et encourage, serait de feindre, de donner non pas des noms à ce qui est, mais des noms nouveaux à ce qui n'est pas encore. Dans ce monde que nous héritons, où il est indispensable de vouloir autre chose, la fiction est une voie vers l'avenir, mais aussi, bien évidemment, un danger. Puisque la violence, le deuil, la pauvreté et tout ce qui les accompagne ne sont pas des problèmes qui paraissent devant nous, mais que nous faisons partie du problème, la fiction peut facilement glisser vers l'illusion, que le mot implique aussi, vers une dissimulation qui donnerait, à la place d'un réel renouvelé, un irréel, néfaste, mais séducteur, le jardin clos d'un poème, d'un récit, d'un tableau, qui ne serait finalement qu'un mirage. D'où l'écriture si attentive de ce poème, le composant, non pas sous le coup de l'émotion, mais au moins 2 ans plus tard, Wordsworth évoque le moment de l'apparition des fleurs et les quelques occasions où, depuis, il s'en est souvenu. S'il est « lonely », seul, lorsqu'il découvre les jonquilles, il se retire, à chaque fois qu'elles lui reviennent en mémoire, dans une solitude encore plus complète. Gai, quand il les voit, il les revoit en imagination au sein d'une bliss, d'une félicité, à la fois plus joyeuse et plus sobre. Évoquant la vue des fleurs, il multiplie les mots dans un très court poème pour dire le bonheur ou son effet. Glee, gay, jocund. Dans une innocence insouciante qui peut seule faire naître le poème, étant une réaction spontanée, ou la mimésis d'une réaction spontanée, au don soudain des choses. Évoquant le souvenir des fleurs, il annonce plutôt une pensive mood, une humeur pensive, qui lui permet de jauger l'allégresse irréfléchie de cette fiction et de la situer dans l'ensemble de ce qu'il sait, dans The Still Sad Music of Humanity, la musique calme et triste de l'homme, nommée ainsi dans le poème L'abbaye de Tintern, est si souvent le sujet de sa réflexion. Le mouvement du poème, de l'innocence à l'expérience, d'une vision en somme édénique, à une réflexion plus avisée quant aux tribulations terrestres, reprend celui de deux poèmes jumeaux de Milton, L'Allegro et Il Penseroso, où Milton passe de la déesse gaieté à la déesse mélancolie, d'une allégresse simple à une joie sombre et contemplative qui compte avec le malheur. Dans un autre poème des mêmes années, l'ode entre vision de l'immortalité, Wordsworth explore avec encore plus de complexité ces deux attitudes qui semblent nous attirer. Celle qui voudrait faire confiance aux choses telles qu'elles sont, à autrui, à soi-même, qui ne voudrait rien demander au monde, hormis qu'il soit, dans la beauté de ses étendues et de ses saisons. Et celle qui, plus avisée quant à la souffrance, à l'injustice, à la mort, cherche, sans cynisme et sans désespoir, un renouvellement éthique, politique, spirituel et esthétique aussi, puisque sur une nouvelle terre entreaperçue, notre vœu serait que le beau ne soit plus coupé du bon et du vrai. Mais nous ne sommes qu'à la lisière de l'étrange et du fictif dans lesquels nous engage ce petit poème de 24 vers. Au moment où les fleurs apparaissent, « When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils », quand tout à coup je vis une foule, une armée de jonquilles dorées, ce « host » étonne, puisqu'il signifie une multitude, mais aussi l'armée du ciel dans la Bible, Tzpa Hashamaim, le soleil, la lune et les étoiles, et aussi les anges sans nombre qui volent autour de Dieu. Nous perdons pied dès le quatrième vers, car Wordsworth semble marcher non seulement sur la rive d'un lac, à la hauteur des nuages, et parmi les étoiles en plein jour, mais même dans les cieux. L'épiphanie des fleurs lui ouvre le réel infini auquel elles appartiennent et dont la soudaine foison de leur présence, comme l'enthousiasme de Wordsworth à les découvrir, sont les garants. C'est la multiplicité des fleurs qui persuade, curieusement, de l'unité des mondes. On voit qu'un réel, tout ordinaire, et qui aurait pu devenir sentimental, est aussitôt travaillé par la poésie. Et la substitution de host à crowd, d'armée du ciel à foule, qui se fait non pas lors d'une ébauche du poème, mais dans le poème même, et qui mime une nouvelle et plus frappante prise de conscience, arrive au moment du passage d'un vers à l'autre. L'enjambement manifeste ici et l'acte poétique, en faisant surgir un deuxième mot plus parlant pour transfigurer les données de la perception, et l'acte prosodique, en montrant une des raisons d'être du vers, le seuil du nouveau qu'offre continuellement sa fin et sa reprise.
Le Collège de France et France Culture vous présente Michael Edwards sur la création littéraire en langue anglaise.
Le renouvellement par la poésie continue. Dans la comparaison du parterre infini de fleurs le long du lac à la Voie lactée, qui suggère de façon subliminale la nourriture spirituelle que l'être humain reçoit d'un rapport vital avec la nature, et dans le nom même des jonquilles, puisque le mot anglais daffodil vient d'asphodel. Se promener parmi les jonquilles dans une vallée du nord de l'Angleterre équivaut, presque, selon le comme-ci de la poésie, à marcher parmi les asphodèles qui couvrent pour les bienheureux les Champs-Élysées. Il importe de noter cependant que ce lieu pressenti par l'imagination ne remplace pas le lieu ordinaire qui s'étend autour du poète. En racontant ce moment qu'il a partagé en fait avec sa sœur, Wordsworth est ému d'abord par ce qu'il voit, par la profusion et par l'unité matérielle, par la communion dans la matière de tout ce qui paraît. Il découvre les fleurs « beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze », le long du lac et sous les arbres, tremblant et dansant dans la brise. Et ces trois prépositions d'origine germanique, beside, beneath, in, servent à situer progressivement les fleurs par rapport aux présences naturelles qui les environnent, à les enraciner dans une réalité perceptible. La poésie de langue anglaise se caractérise par le fait qu'elle explore en même temps le domaine des sens et celui de l'imagination, qu'elle associe dans un tout ininterrompu, le visuel par exemple, et le visionnaire. Les envolées les plus étonnantes ne méprisent pas le commun et le quotidien et se fondent le plus souvent sur des perceptions nombreuses et précises. Le poème anglais le plus illuminé est souvent une fête de l'exactitude. Voilà la fiction du poème, la présence de l'invisible dans le visible, du lieu surnaturel dans le lieu naturel, du ciel sur la terre, grâce à l'effacement soudain de toutes les frontières. Dans les éditions collectives de ces poèmes, Wordsworth plaçait celui-ci parmi les poèmes de l'imagination, un autre groupe étant constitué par les poèmes de la fantaisie. Son ami Coleridge proposa une distinction entre l'imagination et la fantaisie, imagination et fancy, qui est devenue classique dans le monde anglo-saxon, mais qui ne semble pas intéresser les poètes et les critiques français, étant étrangères aux catégories de pensée de la poétique comme de la philosophie française. Il se peut que la théorie de Coleridge n'ait pas été tout à fait comprise. Mais plutôt que de la réexaminer ici, je préfère proposer une autre distinction, très simple, mais aussi, je crois, très adéquate. Lorsque l'acte littéraire présente, selon son principe, une version neuve du réel, j'appelle imagination l'énergie qui associe le nouveau à l'ancien, qui ne s'éloigne pas du réel, mais qui l'élargit. Une imagination juste ne cherche pas, contrairement à la fancy, les plaisirs d'un monde inouï, autonome. Elle cherche le réel, le vrai. Elle constitue un authentique savoir. Dans la création littéraire, on invente toujours, selon, dans le seul sens actuel du mot, mais on ne répond à l'aspiration de la littérature que si l'on invente aussi selon le sens caduc du mot, qui en préserve l'étymologie, trouver. L'imagination invente, dans les deux sens du mot, par une sorte de fable, elle découvre ce qui est. Je dirais aussi qu'un poème est achevé, et sans doute aussi un roman, une pièce de théâtre, quand on l'a inventé. Wordsworth se découvre en imaginant les étages du réel, en un lieu particulier de la Terre, de l'Angleterre, qu'il perçoit dans sa spécificité, puis dans une mémoire instruite du malheur de notre condition. Je suis convaincu en effet que nous sommes faits tels que nous ne voulons pas exactement autre chose, mais plutôt que les choses soient autres. Nous sommes attirés, me semble-t-il, non pas par ce qui est transfiguré, mais par ce qui est transfiguré. Dans un monde qui ressemble peu à l'Arcadie, un obscur instinct nous attache malgré tout à notre ici. Nous ne désirons ni une terre où l'on meurt, ni autre chose que la terre, mais une terre pour toujours, pour l'éternité, une sorte d'éternité. Nous ne demandons pas, disons, le purement céleste, mais l'infiniment terrestre. Et pourtant, comme le dit si bien Yves Bonnefoy, dans la leçon inaugurale de sa chaire au collège qui a tant fait et qui continue de faire tant pour la compréhension de la poésie et de la fonction poétique, que de dualisme nocif entre un ici dévalorisé et un ailleurs réputé le bien. Cela nous guette, en effet. La littérature, toutes les formes de l'art, semblent souvent la promesse de l'entièrement autre, ou la réalisation même d'un univers à part. Elles se présentent parfois comme un idéal, un surréel, parfois comme le meilleur des mondes possibles. Nous songeons à des pays de cocagne. Nous rêvons utopie, Eldorado, mais à ces lieux imaginaires, ou plutôt fantastique, il manque ce dont nous ne pouvons pas nous passer, le grain du réel. Grâce surtout à la poésie et à la peinture, cependant, nous apprenons que la réalité contient déjà la possibilité de son propre dépassement. Le réel a ses rêves que le rêve ne connaît point. Au moment où l'on s'interroge sur l'utilité de la recherche en littérature, l'étude de la création littéraire propose d'examiner le projet fondamental de l'œuvre et les implications toujours considérables de la façon dont elle est faite, en vue d'une meilleure compréhension des rapports qui existent entre la littérature et le reste de notre expérience, et en vue surtout d'une meilleure intelligence de la vie. La littérature est une philosophie pratique, une quête de la sagesse enracinée, phrase par phrase, vers par vers, dans le vécu. D'où l'importance pour nous de la poiesis. Car ce mot grec dont nous avons tiré poésie signifie à la fois quelque chose que l'on fabrique et le processus de la fabrication. Un poiema est un objet que l'on a fait, par exemple un poème, mais aussi une action, un acte. Un poietes est celui qui fait. À la Renaissance, on se servit de l'étymologie de poète pour dire que le poète était un créateur. Du temps du modernisme de Pound, de Joyce, de T.S. Eliot, on soutint que le poème était un objet façonné afin de rejeter l'idée romantique de la forme organique ou naturelle et afin de substituer à la personnalité de l'écrivain romantique l'impersonnalité de l'écrivain moderne. Nous pourrions dire à notre tour que le poème, dans le sens large du terme, l'œuvre littéraire, est un acte qu'il agit, qu'il fait, que l'œuvre œuvre. L'idée est loin d'être spécifiquement anglaise, mais elle me rappelle le sens du mot « being » par rapport avec l'être. Alors que l'être de l'arbre, par exemple, suppose une essence de l'arbre au-delà du temps et de l'espace, le « being » de l'arbre est à la fois son essence et son devenir. « Being » a la forme d'un participe présent. Et l'on sent au fond du substantif non seulement un verbe, mais un verbe actif au moyen duquel l'arbre participe. En effet, au présent, le « being » de l'arbre, c'est l'action par laquelle il est. Son exister dans le temps et dans un lieu, sa manière de réagir au vent ou de se tourner vers le soleil. Les œuvres littéraires sont le même, et la critique littéraire a intérêt à le reconnaître. On peut regretter que Valéry, au moment même où il recentra son activité sur la poétique, trouva qu'il considérait, je cite, « avec plus de complaisance et même avec plus de passion, l'action qui fait que la chose faite », fin de citation, en délaissant l'étude des ouvrages pour celle de leur genèse et en oubliant qu'en littérature, la chose faite est elle-même une action qui fait. Et cette étude de la création littéraire en tant qu'action sur le monde et sur le moi sera complétée, selon le projet de cette chaire, comme je l'ai dit au début, par l'étude de l'étranger. Les langues naturelles, le français, l'anglais, sont des fictions avant même l'intervention de l'écrivain. Elles font vibrer les êtres, les objets, les idées les plus abstraites de sons intelligibles. Elles créent, à côté de l'univers offert au corps-esprit, ou plutôt au sein même de cet univers immense et confus, un ensemble presque cohérent et singulièrement attirant, dès que l'on y réfléchit, où se trouvent les noms des choses et une syntaxe du réel, une interprétation des correspondances régissant le tout qui change, parfois étonnamment, d'une langue à l'autre. Ils activent l'esprit, mais aussi l'oreille et les muscles, en faveur d'une sorte d'univers second, en relation ininterrompue, avec l'univers que le verbe humain ne cesse d'habiter. Chaque langue est une fiction collective, sans fondateur et aussi anonyme que les mythes et les fables. Elle est déjà une feinte, une fiction vive et inventive qui nous place d'emblée dans un univers étrange et quelque peu poétique. Une langue étrangère nous initie avec encore plus d'efficacité au caractère fictif, heuristique et enchanteur du langage. La terre et le ciel changent dans une langue étrangère et le « je » qui parle se reconnaît à peine. Il est évident pour un anglophone que le français est une fiction se mouvant à une certaine distance bizarre et intéressante du réel familier. Le français propose à tout étranger une lecture fictive, à la fois épique et lyrique, d'un univers qu'il connaissait jusque-là par d'autres noms. Certains mots français, cependant, peuvent sembler également, à un étranger et dans des contextes chargés d'émotions et de pensées, la révélation d'une vérité authentique, d'une réalité enfin réelle, ayant acquis le pouvoir de nommer phénomènes et noumènes avec une exactitude magique. On disait à un moment que la possibilité de passer d'un monde linguistique à un autre établissait la nature inconnaissable de tout, l'éloignement définitif des choses derrière les mots. Je dirais plutôt que l'altérité qui se dessine dans une autre langue montre que si le réel était en effet malaisé à connaître, il est aussi richement transformable à mesure que nous le nommons et le vivons. Une langue étrangère est mystérieuse au sens propre du mot. Et plus on la creuse, plus son mystère augmente. L'étranger dévoile les limites de notre saisie du réel. Il manifeste surtout l'étrange, l'étranger au cœur du réel, l'altérité troublante du monde et du moi. Dans un monde déchu, inachevé, il nous avertit de ne pas rester par inertie ou lassitude dans la trame agréable mais finalement mortifère du familier. Car l'étranger, une langue étrangère et surtout la littérature étrangère où cette langue vit dans sa plénitude, participe du rêve du réel. Et je crois comprendre qu'une langue étrangère, pratiquée avec passion et audace, peut devenir une langue maternelle dans un sens nouveau du terme. Une langue n'est pas seulement maternelle quand elle est parlée par la mère. Elle l'est aussi quand elle enfante. Une langue étrangère, en recréant l'être selon le fictif et l'étrange, selon le possible qui gît au fond de l'étang, donne une autre naissance et une seconde vie. Dans l'entretien des nations d'Europe, l'Angleterre est la voix off. Elle se tient à part dans sa dissemblance dickensienne, que j'aimerais faire entendre et comprendre moi-même dans une perspective française, en examinant à nouveau la littérature de langue anglaise, bien sûr, mais aussi la peinture, la musique, dans ses rapports avec la poésie, et que sais-je encore des trésors à inventer de cette petite île irrationnellement féconde, mal amarrée au nord-ouest du continent. Je vous remercie.
C'était la leçon inaugurale de Michael Edwards intitulée « Études de la création littéraire en langue anglaise » le 11 décembre 2003 au Collège de France et en coproduction avec le CNED. Le texte de cette leçon apparu chez Fayard en 2004. Le recueil de poèmes de Michael Edwards, « L'infiniment proche » apparu aux éditions de Corlevour en 2016. Je vous recommande ses essais « Le génie de la poésie anglaise » en 2014 aux Belles Lettres et « Le bonheur d'être ici » chez Fayard en 2011. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations liées à cette diffusion. Cette émission sera rediffusée dans le cadre des Nuits de France Culture. Un grand merci à notre équipe de réalisation avec Olivier Guérin et Alex Dang. Lundi, Han Chang, la Chine pense-t-elle ? Bonne fin de semaine à l'écoute de France Culture.